Président, Madame, Monsieur.
Les procès du siècle.
Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM.
My life belonged to that struggle.
Saison 2. Féminisme, genre et minorité.
Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle ouvrent un espace d'échange citoyen.
Après une première saison consacrée aux questions environnementales, nous dédions cette deuxième saison aux minorités dominées et à leur manière de s'exprimer, de résister, de revendiquer leurs droits.
Et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins.
Les procès du siècle, saison 2.
Féminisme, genre et minorité.
14 épisodes enregistrés dans l'auditorium du MUSEM.
Épisode 14. Sommes-nous de plus en plus ou de moins en moins racistes? Avec Rokhaya Diallo, Lilian Thuram et Toufi Kakem à la modération.
Merci. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus si nombreux ce soir pour le dernier procès, parce que c'est le dernier procès de la deuxième saison des procès du siècle du MUSEM, une initiative parmi tant d'autres pour continuer ce combat progressiste. Et aujourd'hui, on questionne justement la nature de ces combats et surtout leur efficacité. En France et dans le monde, sommes-nous aujourd'hui, en ce 13 mars 2023, moins racistes qu'il y a, disons, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Moi, ce que je vous propose, c'est un sous-titre. Les combats contre le racisme font-ils avancer significativement la cause? Et dans ce cas, nos deux grands invités auront des choses à nous dire. J'appelle à la barre Rokhaya Diallo, journaliste, militante, féministe, et Lilian Thuram, en sa qualité de président de la Fondation Éducation contre le racisme et pour l'égalité. Merci Rokhaya, merci Lilian d'avoir accepté cette invitation du MUSEM. Alors, en France, le discours de haine prend de l'ampleur, notamment dans les milieux politiques, ainsi que dans les médias audiovisuels et sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, un rapport publié en septembre 2022. Et si cet organe indépendant d'experts saluait au passage, parce qu'il a fait aussi les progrès accomplis par la France dans la lutte contre le racisme, il exprimait aussi de vives inquiétudes, mais concrètement, sommes-nous de plus en plus, ou de moins en moins, racistes? Alors, je vous pose cette question, sachant très bien que c'est une question très difficile. Allez, Rokhaya, pour commencer.
Merci pour la difficulté.
Je veux avoir le ressenti.
Oui, bien sûr. Bonsoir, déjà bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. C'est vraiment très agréable de savoir qu'on va s'exprimer dans une atmosphère bienveillante et vraiment à l'écoute d'une question qui est une question extrêmement difficile à aborder dans le contexte français, parce qu'elle fait l'objet à la fois de déni, parce qu'elle est encore assez taboue. Donc il est difficile de répondre oui ou non à la question, parce qu'en réalité, elle peut recouvrir plein d'aspects, c'est-à-dire que je ne sais pas si on est plus raciste, mais ce que je peux dire, c'est que en fait, la question, c'est est-ce que le racisme change en termes de degré ou en termes de nature ? Et j'ai l'impression que ce qui change, c'est plus la manière dont le racisme s'exprime en termes de forme.
C'est-à-dire moins frontal ?
Il est peut-être moins frontal. Hein. Peut-être qu'on est aussi aujourd'hui dans une société où il est plus infamant d'être reconnu comme raciste qu'autrefois. Donc il y a des stratégies en fait de camouflage. Et on est aussi dans un contexte où on va utiliser des idéologies progressistes pour masquer, en réalité, des projets racistes. La manière dont on va mobiliser, par exemple, des notions telles que celles de la laïcité et qu'on va détourner, ou la notion d'universalisme pour, en réalité, masquer un projet raciste, eh bien, c'est une manière de dire que, oui, certes, il est aujourd'hui plus prestigieux de présenter dans l'espace public un aspect progressiste en disant « oui, je suis universaliste, oui, je suis attaché à la laïcité », mais ça n'enlève pas, en fait, le projet raciste qu'il peut y avoir derrière une déclaration qui est en réalité une déclaration mensongère. Donc je crois qu'il y a une forme de subtilité qui rend difficile l'appréhension du racisme, et même parfois, des gens se disent antiracistes, et en fait, au nom de l'antiracisme, vont vouloir éradiquer les revendications des minorités. Donc c'est ça la difficulté, je trouve que c'est vraiment dans la forme de l'expression du racisme qu'il est plus difficile de l'appréhender que c'était le cas il y a quelques années.
Lilian, depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? S'il fallait parler du ressenti, est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un pays de plus en plus raciste ou de moins en moins raciste?
Alors tout d'abord, bonsoir. Je suis très surpris du nombre
de personnes.
Et encore, vous n'avez pas vu le,
l'autre. Ne me dites pas ça, ne me dites pas ça, je vais avoir peur. Je suis déjà ému, déstabilisé, donc ne me dites rien. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a moins de racisme. Je pense que c'est une impression qui est vraie. Parce que je pense que déjà, si on se regarde ici, on regarde la salle, en fait, je pense qu'il y a 50 ans, ben, il n'y aurait peut-être pas eu une salle comme ça. Il n'y aurait pas eu ce débat-là dans un musée en France. Donc, je pense qu'effectivement, la réalité, c'est le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a moins de racisme. Et je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de personnes qui ont très, très peur parce qu'ils perçoivent que la société change. Et donc, nous sommes en train de gagner. C'est sûr. Il ne faut pas leur dire parce qu'ils vont avoir encore plus peur. Ils vont encore plus s'énerver. Et quand ils sont énervés, ça peut être dramatique.
Voilà. Vous partagez aussi cet optimisme, Rokhaya ?
Bah, ce que je constate, en tout cas du point de vue, comme vous parlez de notre ressenti, du point de vue de mon vécu, moi j'ai grandi dans les années 80, ce qu'on voyait à la télévision dans les années 80 n'est absolument plus acceptable aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a quand même une sensibilité générale qui s'est transformée. Moi j'ai grandi à une époque où on voyait des émissions pour enfants, où l'animatrice de l'émission se faisait cuisiner dans une grande marmite par des hommes noirs. Donc ça aujourd'hui, ça ne passerait plus. Donc évidemment, j'ai des gens qui sont choqués. Je suis une personne âgée, donc j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses
en fait,
incroyables.
En fait, si j'ai le droit de te couper, en fait, c'est peut-être que ces personnes-là sont plus âgées que toi, mais ils ne percevaient pas ces choses-là.
Oui, c'est possible. L'émission que je cite, c'est le Club Dorothée, pour ceux qui ont connu. Donc voilà, c'était une émission très très populaire des années 80-90 qui s'est arrêtée en 1996. Et les événements dont je vous parle se sont déroulés dans les années 90. Donc c'est pas non plus il y a si longtemps que ça. Et c'était des choses très très communes dans les émissions jeunesse où en fait on voyait les seuls protagonistes non blancs qu'on voyait étaient caricaturés et en fait avaient des comportements qui étaient extrêmement stéréotypé. Et ça, aujourd'hui, pour plein de raisons, parce que aussi, il y a des réseaux sociaux qui permettent une réponse, c'est-à-dire que moi, ces événements, je les ai vécus chez moi, je sentais que c'était pas normal, en tout cas, que c'était pas acceptable, mais j'avais pas les moyens de m'exprimer publiquement parce qu'il y avait pas d'espace, en fait, où ma voix pouvait porter. Donc là, vraiment, je rejoins complètement ce que dit Lilian Thuram par rapport au fait que cette assistance avec ces personnes sur la scène, c'était pas du tout envisageable. Et pour, en plus, remettre en question des choses qui paraissaient évidentes et qui passait vraiment sans problème. Quoi.
Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cet avis plutôt optimiste, et nous, on a essayé de travailler sur des événements très précis. Alors, il y a 30 ans, ou presque 30 ans, le 13 juillet 1993, pour être précis, le quotidien Le Monde publiait un appel à la vigilance, initié par l'historien et éditeur Maurice Hollander, et signé par les figures les plus célèbres de la vie intellectuelle française, ils étaient tous là, et européennes de l'époque, et cet appel alertait sur la banalisation des discours d'extrême droite dans l'espace éditorial et médiatique. Ses signataires rappelaient que ces discours ne sont pas simplement des idées parmi d'autres, mais des incitations à l'exclusion, à la violence, au crime, et que pour cette raison, ils menacent tout à la fois la démocratie et la vie humaine, fermés les guillemets. Et dans un livre qui vient de paraître, le journaliste Edwy Plenel estime que non seulement cet appel n'a pas été entendu, mais que le racisme se banalise chez les politiques et surtout dans les médias.
Ce qui est vrai, c'est que je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Lilian Thuram, c'est qu'il y a une peur et il y a une réaction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avance dans les luttes, et c'est systématique, c'est-à-dire qu'on va avoir un progrès, une progression par exemple de la visibilité des personnes non blanches, des discours antiracistes, il y a forcément un retour de bâton et des gens qui vont réagir de manière brutale et avec dans une forme de panique en fait. C'est ce qu'on peut percevoir aujourd'hui et c'est vrai de se dire que les gens s'inquiétaient dans les années 1990 alors qu'aujourd'hui une personne qui fait carrière en étant condamnée à de multiples reprises pour des propos racistes et en fait vraiment le matériau en fait de son engagement politique et devient candidat à la présidentielle, c'est vrai que c'était pas envisageable dans les années 1980. On se posait la question d'inviter Jean-Marie Le Pen sur des plateaux de télévision. Aujourd'hui, il est complètement admis que non seulement les figures d'extrême droite aient une place, et on a même un ministre en fait qui a dit que Marine Le Pen était plus républicaine que la NUPES. Donc ce terme de républicain aussi, c'est un terme qu'on peut questionner parce que je sais pas, républicain, ça veut tout dire quoi. Je veux dire, elle est sympa, elle est courtoise. Enfin, je veux dire, la langue française est riche. Faut que ça veut dire quoi, elle est républicaine ? Parce qu'en fait, elle l'a soutenu quand il a été agressé verbalement. Donc du coup, C'est aussi... voilà, donc on a un ministre qui peut dire que Marine Le Pen est plus républicaine que des personnes de gauche, comme si ses idées, en fait, ce qu'elle défendait, les valeurs qu'elle défendait, n'étaient pas antinomiques avec, avec la République. Et ça, c'est effectivement un glissement.
Mais comment vous l'expliquez qui, est-ce que je dois comprendre que, d'après ce que vous avez dit au début, que c'est une forme de réplique? C'est parce qu'il y a plus de visibilité,
exactement,
qu'il y a plus de racisme qui s'exprime, que ce soit dans les médias ou dans le monde politique.
Bah parce qu'il y a un ensemble de contestations qui sont devenues plus visibles dans l'espace public, mmh, c'est-à-dire que les débats qu'on a pu avoir sur les violences policières, alors évidemment la mobilisation des Gilets jaunes les a portés, mais ce qui s'est passé 2 ans après avec le meurtre de George Floyd et les différentes mobilisations ont quand même forcé, contraint les médias, les politiques de répondre. C'est-à-dire qu'ils soient d'accord ou non, ils ont été obligés de tenir compte de ces différentes mobilisations et de ces questionnements. Et en retour, en fait, on a des personnes qui s'inscrivent dans une forme de déni ou de négation, en fait, de ce qui est dit. Donc je crois, oui, que c'est une réponse à des discours qui n'avaient pas d'espace autrefois. C'est-à-dire que ce n'était pas nécessaire.
Comme elle a pu dire que l'élection de Trump, c'était aussi la réponse de l'élection de Barack Obama ?
C'est une conséquence, en tout cas c'est l'expression d'une peur, c'est-à-dire de voir une famille noire installée à la Maison Blanche, de voir aussi que ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une évolution démographique des États-Unis. C'est que ce que disaient les chiffres à l'époque de l'élection de Barack Obama, c'est que en 2050, les blancs seraient minoritaires en fait par rapport au reste de la population, ils seraient moins de 50%, et que la population qui a augmenté le plus vite, c'est la population latina et la population asiatique. Donc ça crée effectivement un sentiment de perte, et je pense que c'est ce sentiment de perte qui est matériel. Réalisé par la présence de Barack Obama à la Maison Blanche avec sa famille, et effectivement de ce chiffre, ça a évidemment créé une forme de panique qui a poussé à élire quelqu'un qui explicitement défendait la suprématie blanche.
Lignan Thuram, pour reprendre à partir de cet appel à la vigilance, et 30 ans plus tard, de voir que le racisme peut aussi se banaliser dans le discours politique ou dans les médias.
Moi, je dirais, pour comprendre le racisme, il faut comprendre la profondeur historique du racisme. Le racisme, c'est pas simplement un ressenti individuel. En fait, si vous voulez, lorsqu'on parle du racisme, c'est une volonté politique. C'est une construction de discours pour éduquer la masse à dire voilà comment on se comporte avec les personnes non blanches. Il y a eu le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat se termine dans les années 60. Là aussi, il y a une hiérarchie selon la couleur de la peau. Donc en fait, ce que nous vivons actuellement, en fait, c'est une suite logique de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, c'est qu'effectivement, le racisme, avant tout, c'est une volonté politique. Ce sont des discours politiques. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le cas où, par exemple en France, il y aurait des lois racistes. Et donc c'est pour cela qu'en fait, effectivement... Nous sommes dans une continuité historique et nous devons continuer à nous battre contre le racisme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques années de cela, on pouvait dire que le racisme provenait seulement de l'extrême droite. Ben, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens comme nous pouvons dire non. En fait, vous pouvez être raciste sans épouser le discours de l'extrême droite. C'est-à-dire que le racisme, en fait, c'est un fait culturel. Et donc, chacun de nous, nous devons nous questionner sur ce sujet. C'est trop facile de dire qu'en fait, c'est l'extrême droite. Non, il y a des gens qui ont des discours très, très racistes, très violents, mais qui ne partagent pas la pensée politique de l'extrême droite. Il y a vraiment une peur. À partir du moment où il y a des gens qui commencent à vous dire qu'il y aurait une volonté de changement de société, ça veut dire qu'ils ont peur. Parce qu'en fait, effectivement, que ce soit à Marseille ou Paris, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de j'aime pas trop de ce mot-là, de diversité.
Pourquoi vous n'aimez pas, d'ailleurs, ce mot ?
Mais parce qu'en fait, vous savez qu'on parle de la diversité. Par exemple, si on dit qu'il y a des gens de la diversité ici, en fait, en règle générale, on ne va pas dire que les personnes blanches ou considérées comme blanches font partie de la diversité. Ça veut dire que moi, je suis un homme divers. Pourquoi ? Ben parce que je suis marron foncé. Ben, on est tous divers. C'est comme les gens qu'on dit les racisés. Ben, en fait, on est tous racisés, en fait.
Alors, comment vous dites ?
Ben, je dirais que, en fait, nous sommes une population multicouleur. Ça me plaît bien, ça.
Alors, chacun de vous est venu avec des pièces à conviction. On commence par vous, Lilian Thuram. Pourquoi avez-vous choisi Black Panther ?
En fait, c'était pour nous questionner sur nos imaginaires. Parce que le racisme est lié à nos imaginaires. Et nos imaginaires se construisent à travers notre éducation. C'est-à-dire que très souvent, nous réfléchissons à travers ce que nous voyons, ce que nous avons entendu. Et nos imaginaires sont complexes et peuvent accepter l'autre dans sa vérité si, effectivement, on vous a appris, on vous a montré des choses positives. Et donc, effectivement, ce film-là participe aussi à combattre le racisme. Ce film-là participe au fait de changer l'imaginaire collectif en disant qu'effectivement, un film où il y aurait que des acteurs noirs ne pourrait pas gagner de l'argent. Parce que, bien sûr, ce film-là, c'est avant tout pour gagner de l'argent. C'est pas pour faire plaisir aux noirs. Hein. Et donc, en fait...
Mais vous l'avez aimé, ce film?
Si j'ai aimé ce film?
Oui.
Ah, mais c'est une chance extraordinaire, notamment pour les enfants qui grandissent avec cet imaginaire, et peu importe leur couleur de peau d'ailleurs. Ça veut dire que l'imaginaire ne peut plus être remis en question sur, effectivement, ben, être noir à la télé, ça peut être magnifique, c'est un super héros, tout le monde est incroyable, tout le monde est beau, c'est une Afrique imaginaire. Donc je pense que c'est très très important, effectivement, cette force-là, parce qu'encore une fois, c'est l'histoire qu'on raconte. Et l'histoire qu'on raconte, effectivement, sur certaines personnes... Peut-être vous n'avez pas conscience, mais vous enferme dans des complexes de supériorité ou des complexes d'infériorité.
Vous avez grandi avec quel super-héros, Lilian Thuram, justement?
Ben écoutez, j'ai grandi avec Superman. J'ai grandi pire encore avec Tarzan. Vous imaginez?
Pourquoi vous pire?
Tarzan?
Oui.
Non, mais vous êtes sérieux ou pas? Mais Tarzan, mais vous imaginez le mec, il est tout seul dans la forêt. Et ça devient le roi de la jungle. Mais vous imaginez, il est supérieur aux animaux, bien évidemment, parce que l'être humain est supérieur aux animaux, à ce qui paraît. Et il est supérieur à tous les noirs aussi, dans la forêt. C'est juste incroyable. J'ai grandi avec un super-héros, Calimero. C'est d'une violence totale. J'ai grandi aussi dans un monde où il y avait la noiraude. Mais ça m'a traumatisé quand j'étais petit. Qui se souvient de la noiraude ici?
Ouais.
Ouais, baissez les mains parce que là, on voit que vous êtes très vieux. Ça, c'est, faites attention à ça. Et donc, en fait, la noiraude appelait toujours le docteur en déprime. Et on se moquait de la noiraude. Et d'ailleurs, à l'école, on m'appelait la noiraude. Donc, en fait, si vous voulez, il y a en fait des super-héros qui vous traumatisent. Et donc, Black Panther, c'est juste incroyable. Je me suis dit, j'aurais dû grandir à cette époque-là. Voilà.
On passe à votre pièce à conviction, Rokhaya Diallo, et vous avez choisi le cinéma, on reste dans le cinéma, mais vous avez choisi plutôt la parole d'une cinéaste. Cette cinéaste a réalisé ce film, Saint-Omer, et on va voir un extrait justement de l'interview de Alice Diop.
Mais une femme noire est une surface de projection. Il y a énormément de gens, mais moi, je me suis construit toute ma vie en tentant de résister aux choses que les gens projettent sur moi. Et un des grands plaisirs que j'ai eu à mettre en scène ces deux femmes, c'est qu'elles me permettaient de dessiller un peu les imaginaires qu'on a sur les femmes noires. Il y a très peu de récits qui mettent en scène des femmes noires puissantes qui ne sont pas que définies par le fait d'être femmes, d'ailleurs. Et les plus grandes fiertés pour moi dans Saint-Omer, c'est de donner la possibilité au corps noir, à ces femmes noires, de questionner l'universel. Et toutes les femmes se reconnaissent en elles. Ouais. Toutes les femmes peuvent se reconnaître en elles, et ça, pour moi, c'est quelque chose de profondément politique.
Voilà, on aurait pu prendre un extrait de la cérémonie des Césars, puisqu'elle a obtenu le César du meilleur premier film. Pourquoi, dans ces propos, vous avez senti quelque chose de l'ordre d'un changement d'époque, que quelque chose s'est passé pour que vous avez choisi précisément cet extrait, Rokhaya Diallo?
Parce que, déjà, Alice Diop, dans ce qu'elle incarne, le fait qu'elle ait reçu deux lions à Venise, le lion du futur et le lion d'argent, c'est déjà inédit pour une réalisatrice française. Donc c'est déjà quelque chose de vraiment avant-gardiste. Et que j'ai toujours l'impression, en fait, qu'on est reconnu plus facilement en dehors de son pays qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que le cinéma d'Alice Diop, j'ai l'impression qu'il est très très bien compris en dehors des frontières françaises, comme un cinéma d'auteur, un cinéma extrêmement exigeant, qui, à travers deux personnages noirs, interroge quelque chose de très universel, à savoir la maternité. Et ce qu'elle disait, je l'ai entendu dans les interviews, dire que qu'elle aille à Tokyo, au Canada, aux États-Unis, il y a énormément de femmes qui comprennent ce qu'elles disent, même si elle a fait le choix d'incarner ce récit à travers des femmes noires, et que j'ai très rarement vu des films en fait qui mettaient en scène deux femmes noires totalement différentes, qui chacune en fait portait une forme de complexité. Et le personnage de Laurence Colly, donc qui est la mère infanticide, qui fait l'objet d'un procès dans Saint-Omer. En fait, c'est un personnage qui est extrêmement lettré, qui a une manière extrêmement soutenue de s'exprimer et qui déstabilise tout le monde parce que, en fait, les gens ne sont pas habitués. Et c'est une femme sénégalaise, donc qui a vraiment été socialisée au Sénégal. Ils ne sont pas habitués de voir des femmes noires immigrées s'exprimer de la sorte. Et je trouve que vraiment, Alice Diop, c'est vraiment dans la continuité, dans la continuation de ce que disait Lilian Thuram à l'instant, a vraiment réussi à ancrer dans le cinéma français d'autres visages, mais en leur associant une forme de complexité qui n'est pas uniquement liée à ce qu'elles sont ethniquement et en termes d'origine, et je trouve qu'elle le défend très très bien.
Et vous pouvez continuer en disant, et pour une fois, ce n'est pas seulement dans le registre comique, puisque vous l'avez dit.
Exactement, mais c'est ça en fait, la question, c'est que moi j'adore les comédies, je trouve ça très bien, ouais. Mais souvent les personnages non blancs, de manière générale, dans le cinéma français, quand ils font des entrées, quand ils sont reconnus, c'est dans des comédies. Et on a toujours l'impression que on a besoin de décharger une forme d'aspect dramatique de la personne pour pouvoir ne pas remettre en question un certain consensus. Et ce que dit souvent Alice Diop, c'est que en fait, les gens veulent... Quand on est cinéaste non blanc, les gens veulent toujours faire de votre film un commentaire politique. Alors qu'en fait, c'est une cinéaste, que l'influence de Marguerite Duras est extrêmement présente dans son film, l'influence de Médée aussi, de la mythologie. Et que du coup, il n'y a qu'à l'étranger en fait, qu'on voyait la filiation cinéphilique ou littéraire avec des intellectuels en fait, et des artistes, là où en France, en fait, on voulait lui faire dire quelque chose de particulier. Et effectivement, c'est vrai que la comédie, ça a l'air d'être vraiment le registre attendu des personnes minoritaires.
Lilian Thuram, vous voulez rajouter quelque chose sur ce propos? D'ailleurs, est-ce que vous l'avez vu, Saint-Omer?
Malheureusement, non. Je vais peut-être réagir sur le dernier mot, les personnes minoritaires. Sachez que les non-blancs, ça va faire peur. Les non-blancs sont majoritaires. Ça n'a rien à voir. C'est pas, vous ne subissez pas le racisme parce que vous êtes une minorité. Vous subissez le racisme parce que c'est lié à une construction politique du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une minorité de gens qui ont construit l'idée que le monde était à leur disposition. Et les richesses du monde.
D'un point de vue mondial.
Oui, bien sûr. Ah, vous pensez qu'en France, n'ayez pas peur.
Tu vas faire peur aux gens, là. Il y a des gens qui vont commencer à paniquer.
Non,
là, le grand
au niveau mondial. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec une minorité. Ça n'a rien à voir.
Non, effectivement, ce sont des personnes minorées. C'est-à-dire que c'est vraiment une relation de pouvoir et ce n'est pas une question numérique. On le voit bien en Afrique du Sud où les personnes noires sont largement majoritaires. Mais en fait, elles sont minorées dans leur position en termes de pouvoir.
Minorées, minorité.
Minorées, c'est pas me dire rien.
Ouais, racisées. Est-ce que vous vous sentez bien avec ces nouveaux mots Alors, pas vous, Lilian Thuram, vous voulez vous exprimer, mais vous, Roqueya Diallo.
Alors, racisé, c'est un très vieux mot, en fait, qui a été créé en 1972 par Colette Guillaumin. Ce qui me dérange dans le terme de racisé, c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai échangé avec des jeunes qui sont ambassadeurs du Pass Culture, c'est qu'en fait, elle a créé ce terme en binôme avec un autre terme. Elle parlait de personnes racisées, donc c'est-à-dire des personnes qui subissaient l'oppression raciale et qui en étaient tributaires, quoi, qui subissaient la discrimination, mais elle parlait aussi de personnes racisantes, qui étaient les personnes qui bénéficiaient du système racial. Et le problème, c'est qu'on a gardé que racisées, ce qui donne l'impression que seules les personnes non-blanches sont prennent part au processus de racialisation. En fait, tout le monde est racialisé, soit de manière...
Mais racisé, ce mot ne vous dérange pas, donc?
Bah, il me dérange parce que il ne désigne que les personnes non blanches et on a l'impression, et en fait, il n'y a pas de mot qui désigne les personnes blanches avec une association au processus de racialisation. Donc, c'est vrai que j'utilise moins qu'il y a 10 ans, mais parce que, en fait, je trouve que c'est important de dire que tout le monde est racialisé. Certains sont racialisés à leur détriment et d'autres à leur bénéfice. Mais le processus racial inclut tout le monde.
Autre génération de féministes, Elisabeth Badinter parle de gens de couleur. Est-ce que ça, par exemple, cette expression, comment vous réagissez?
Alors, non, mais Elisabeth Badinter, il y a des féministes de la génération d'Elisabeth Badinter qui sont pas de droite. Enfin, juste, enfin, non. Il y a Christine Delphire. Il y a des gens qui ont aussi pensé les choses autrement. Non, mais Elisabeth Badinter a dit tellement de choses problématiques que si on commence à s'arrêter à chaque mot,
c'est... Oubliez Elisabeth Badinter, l'expression « genre de couleur ».
Bah, disons que c'est vrai qu'en anglais, on parle de personnes de couleur et j'ai l'impression, ou de personnes brunes, Il n'y a pas forcément d'équivalent en France. En langue française, c'est vrai que c'est très très connoté et je suis pas, bah, vu, enfin, l'histoire de cette terminologie dans le contexte français est l'implicite en fait. C'est toujours l'idée qu'il y a des personnes qui ont une couleur, des personnes qui n'en auraient pas. Donc c'est encore une fois exclure les personnes dominantes du phénomène racial. Donc c'est pas forcément très très juste, quoi.
Merci. Il est temps maintenant d'appeler à la barre nos témoins, deux témoins. Un couple. J'appelle donc à la barre Janine et Robert, dit Bob.
Bonsoir. Comme au cours de chacune des séances précédentes, les paroles des témoins que vous allez entendre sont issues d'un travail collectif en atelier qui s'est tenu la veille. Hier donc, une dizaine de personnes se sont retrouvées en commission d'enquête pour débattre du sujet de ce soir, préparer des témoignages, faire entendre des points de vue multiples au croisement de l'expérience, de la réflexion et de la fiction. Avec Fabienne Julien, Rémi Baille et Éric Lecomte, nous avons animé ces séances tout au long de l'hiver. Et ce soir, avec Fabienne, nous avons eu envie, pour ce dernier rendez-vous de la saison, de prendre en charge à notre tour un témoignage. Devant vous, nous incarnerons donc ce soir un couple bien sous tout rapport.
Bonsoir, moi c'est Janine. Je vous présente mon mari Bob. On est vraiment contents d'être invités tous les deux, Bob et moi, pour témoigner dans votre débat sur les racistes. Alors pour se présenter, nous on est un couple blanc, cisgenre comme on dit aujourd'hui, hétérosexuel normal, quoi. Nous, on n'est pas raciste et même on l'est de plus en plus à force de voyager.
J'ai pris ma retraite il y a quelques mois déjà et pour l'occasion, Janine, ma femme, m'a offert une carte du monde à gratter. Alors, c'est un grand poster, tous les continents, tous les pays sont recouverts d'une petite pellicule noire et alors quand vous êtes allé quelque part, vous grattez le pays et sa couleur apparaît. Alors le soir, on a gratté ensemble et puis on s'est rendu compte que quand même, tous les deux, on avait déjà fait 23 pays. Parce que nous, on a la passion des voyages. Pas des voyages organisés, hein. Non, pas en troupeau. Des vrais voyages où on découvre tout par nous-mêmes.
Dernièrement, on a fait la Thaïlande, délicieux. Avant, le Pérou. C'est magique, le Pérou. On a fait la croisière du Nil, somptueux. On a fait le Maroc, moyen. On a fait Madagascar, mais on s'était trompé, c'était la saison des pluies. En fait, ça serait trop long de vous les dire tous.
Non, dans les voyages, on ne peut pas être raciste. Ou alors, vaut mieux rester chez soi. Non, c'est parce que c'est vraiment merveilleux de voir toutes ces cultures, tous ces peuples dans leurs conditions de vie authentiques. On peut dire qu'on a toujours été très bien accueillis partout. On n'a jamais senti de racisme. Les gens sont gentils en général.
Ce qu'on aime quand on voyage, c'est d'abord la cuisine. Goûter les spécialités culinaires du pays. C'était pour ça la Thaïlande. Là-bas, ça n'a rien à voir avec un restaurant thaïlandais. Hein. Et puis, il faut en profiter, parce que là-bas, c'est pas cher du tout, les restos.
Et la culture, surtout, la culture. Les fêtes traditionnelles, les danses, même les cérémonies. On a une collection incroyable de selfies, Janine et moi, dans tous les plus beaux coins qu'on a vus. On les envoie à nos enfants, à Charles Igor et Capucine, pour leur donner le goût du voyage. Hein. Il faut éduquer les jeunes. Ils voyagent déjà aussi.
Oui, mais bon, quand même, Bob, une fois, ça ne s'est pas très bien terminé. On était au Maroc et on a voulu faire un trek dans le désert. Il y avait une promo, week-end de 3 jours aux dunes de Mezouga. Un trek pour se ressourcer, se dépasser, rencontrer différemment d'autres personnes dans des conditions très différentes. Alors, on était avec 2 guides et 5 chameaux, un chacun et un pour le matériel. Les 2 guides étaient habillés en bédouin, des vrais hommes bleus du désert. Et oh, ça, c'était impressionnant. Bon, premier soir, magique, feu de camp, dîner sous les étoiles, incroyable. Deuxième soir au bivouac, l'un des chameaux était en période de rut. Bon, déjà la veille, il était hyper nerveux, mais là, il se tenait plus. Puis Bob, il n'a pas fait attention. Il a voulu se faire un selfie devant les chameaux. Et là, celui en rut, il l'a mordu à la cuisse, mordu fort. Ça a saigné. Ah non, mais quel con ce chameau!
Et alors là, Aziz, le guide, il a voulu me faire un emplâtre avec je ne sais pas quoi, des sortes de baumes et des herbasses. Bon, alors bien sûr, je n'ai pas voulu qu'il me touche. Hein. Parce que non, enfin, pas question de faire n'importe quoi avec cette blessure. Alors, on a écourté le trek et le lendemain, on a été à l'hôpital, à Ouarzazate. C'était un peu moyen. Alors, on a préféré se faire rapatrier quand même. On avait besoin d'être dans un environnement vraiment sûr.
Alors, ensuite, à notre tour, Aziz, le guide, il nous a contactés sur WhatsApp pour savoir comment allait Bob, si ça s'était bien cicatrisé, tout ça. Mais... Comme nous, le premier soir, dans le désert, on l'avait incité à visiter Marseille. On avait un peu peur qu'il veuille débarquer chez nous. Alors, on lui a répondu une fois, peut-être deux, et après, on a arrêté.
Bon, c'est vrai qu'après tout ça, pendant un temps, on a quand même préféré voyager en Europe. Et puis, il y a eu le Covid. Après, c'était plutôt normal de faire du tourisme chez nous. Ils l'ont bien dit, hein, d'ailleurs. Hein. On a fait les capitales, Hambourg, Dublin, Rome, même Palerme. Qu'est-ce qu'ils sont vivants, ces Italiens. Et ça chante, ça sifflote, ça parle fort. Non, vraiment, ils ont un tempérament bien à eux. Nous, les Italiens, on les adore.
C'est vrai que quand on rentre chez nous, on préfère rester peinard parce que c'est quand même fatigant, tout ça. Là, on vient de déménager. On a finalement préféré Aix à Marseille. C'est plus calme. Et puis, dans notre quartier résidentiel, ben, on connaît tous les voisins.
Donc, c'est notre message, hein, ce soir, les jeunes. Il faut voyager. Il faut aller à la rencontre des autres. Hein. C'est important, ça. C'est important.
Merci. Hein, merci beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup. C'est magnifique. Alors commencez, Lilian, commentez ce témoignage.
À tout d'abord, félicitations. Franchement, magnifique. Alors, ce que je retiens, c'est voyager chez nous. En fait, ça paraît stupide, mais je vous invite à lire un livre très important qui vient de sortir, là, il n'y a pas très longtemps en France, qui s'appelle « Le contrat racial ». En fait, on ne se rend pas compte que chacun de nous ici, nous avons été éduqués à travers le contrat social. Mais la réalité historique, c'est qu'il y a un contrat racial entre les Blancs et aussi contre les non-Blancs. Ça veut dire nous, les Blancs, chez nous. Et en fait, ce contrat racial est très puissant, plus puissant qu'on le pense. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai découvert que j'étais noir à l'âge de 9 ans. Il y avait des miroirs aux Antilles. Mais on découvre qu'on est noir à travers un traumatisme. Des enfants de ma classe m'insultent de sale noir. Donc je me questionne à savoir qu'est-ce que c'est noir. C'est pas positif en tout cas. Il faut que je réfléchisse. Et je finis par comprendre qu'effectivement, c'est lié à une histoire. Donc la racialisation du monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en règle générale, la grande majorité des personnes blanches sont persuadées d'être la norme. Ça veut dire qu'il y a un nous blanc, mais que les Blancs n'intellectualisent pas. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment... vous êtes fantastiques.
Roca ?
Ouais, j'ai trouvé vraiment l'interprétation très, très juste, et le texte aussi. Vraiment, merci beaucoup, parce que ça montre aussi... parce que, en fait, dans la représentation, je pense que ce qui met tout le monde à l'aise, c'est de se représenter les personnes racistes comme des personnes qui le sont explicitement, qui sont des fachos, qui vont invoquer des idéologies d'extrême droite de manière très explicite.
Ce n'est pas le cas.
Et là, c'est le racisme, justement, quotidien de personnes qui présentent, en fait, des sentiments plutôt d'ouverture, des sentiments bienveillants. Et c'est ce racisme-là, en fait, qui est le plus répandu. C'est-à-dire que c'est le racisme de la certitude. La certitude d'avoir une position dans le monde et d'avoir le droit aussi d'appréhender les autres personnes avec son propre prisme. Et je trouve que c'est ça, en fait, quand tout à l'heure, la première question sur est-ce qu'on est plus ou moins raciste, c'est ce changement de forme aussi, c'est-à-dire que sous couvert d'ouverture d'esprit, on va perpétuer une domination coloniale. C'est-à-dire que ce droit, parce qu'en réalité, tous les pays qui ont été visités sont visités parce qu'en fait, on a un passeport qui nous donne accès à un certain nombre de pays. Mais en retour, bah justement, quand il s'agit, quand on imagine que le Marocain, le guide marocain puisse venir à Marseille, bon, déjà, que vous le vouliez ou non, c'est pas sûr qu'il y arrive parce que, avec la politique des visas français, il y a une asymétrie en fait en termes d'accès des pays. Et puis en fait, on veut pas. C'est-à-dire qu'on veut voir les gens soi-disant dans leur environnement naturel chez eux, mais chez nous, et effectivement, il y a ce nous, ils ne sont plus bienvenus parce qu'on considère qu'ils vont, remettre en question notre confort de vie. Mais ouais, je trouve que c'est important en fait de rappeler que c'est dans ces interactions quotidiennes et dans ces phrases et dans ces petites allusions qu'on va retrouver en fait la majorité de la verbalisation du racisme.
On passe la prochaine pièce à conviction et j'appelle à la barre Julia Ferloni. Elle est où? Elle est conservatrice du patrimoine. Ah ben elle est là. Conservatrice du patrimoine.
Bonsoir.
Responsable du pôle artisanat, commerce, industrie. J'ai rien oublié. Bonsoir. C'est Julia.
Bien. Bonsoir Toufik.
Quelle est votre pièce à conviction?
Donc je viens vous présenter cette guitare qui a été peinte, puisque c'est une vraie guitare, par l'artiste Gaby Jiménez, qui est un artiste français. Je précise qu'il est français parce qu'il ne supporte pas qu'on le renvoie toujours à ses origines gitanes, parce qu'il est français avant d'être gitan. Avec cette guitare, Gaby a voulu parler d'un racisme particulier, qui est l'anti-tsiganisme. Et en particulier, l'anti-tsiganisme auquel sont confrontés les voyageurs. Alors vous dites, c'est qui les voyageurs? En fait, ce sont les gens du voyage, mais qui préfèrent s'appeler voyageurs, puisque c'est une identité qui ne leur est pas assignée. Mais
ça, je l'ai appris aujourd'hui, grâce à vous, merci.
Je vous en prie.
Mais alors, pourquoi vous avez choisi cet objet?
J'ai choisi cette guitare. Alors, elle est un petit peu floue ici, mais je vais vous la présenter d'un peu plus près. Ce que vous voyez sur cette guitare, il n'y a pas que du jaune. Vous avez ici deux voyageurs qui ont les mains levées, qui sont cernés par du barbelé. Tout autour, vous avez tout un amalgame de caravanes. Et sur la partie supérieure, vous avez trois voyageurs qui sont coursés par un gendarme. Et ce que veut dire Gaby avec cette œuvre, c'est d'une part, en fait, on n'est pas égaux. On est français, mais on n'est pas égaux. On nous parque autour de ce barbelé là, dans des aires d'accueil qui n'ont d'accueil que le nom. Je sais pas si vous êtes allé à l'aire d'accueil la plus proche de chez nous, à Saint-Menay. Autoroute d'un côté, voie ferrée de l'autre, déchetterie là en face et derrière l'usine Seveso.
Rien n'a changé depuis les bijoux de la Castafiore.
Non, malheureusement pas. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette guitare donc qui a été peinte en 2015, oui, Gaby est toujours vivant, vous pouvez même aller consulter son site ou le voir bientôt dans nos murs. Mais ça, c'est un teasing pour plus tard. Ce que j'aime aussi dans cette guitare, c'est qu'elle fait aussi appel à des stéréotypes, mais positifs. Parce que quand on pense gitan, on se dit « Eh, bambolé, yo, bien sûr, la guitare, ils ont ça dans le sang. » Et certains, oui, d'autres sont vraiment nuls en musique. C'est ce que j'aimais aussi dans cette guitare, c'est qu'elle faisait appel à plusieurs notions, et c'est pour ça que je vous la présente ce soir.
Mais alors pourquoi, Julia, pourquoi le musée a fait cette acquisition?
Ça, c'est une bonne question. Il se trouve que depuis plusieurs années, on est engagé dans un projet d'exposition qui ouvrira, c'était là le teasing, bientôt, qui s'appelle Barvalo. Donc Barvalo, ça veut dire riche et fier en langue romanie. Et ça nous a permis de nous pencher sur ce qu'on avait dans nos collections en termes d'objets romanie. On en avait à peu près 900, mais qui étaient assez mal identifiés, parfois même identifiés avec un regard raciste, malheureusement, dans les indexations. Ce qui me fait dire que oui, on progresse finalement vers moins de racisme, parce qu'aujourd'hui, on a conscience que ce qu'on a pu marquer il y a 50 ans dans les index ne sont pas franchement reluisants.
Exemple,
prenez cette estampe de l'artiste L'Éveillé qui a fait un voyage en Espagne au début du 19e siècle. Et nous, on a acquis dans les années 70 des estampes qu'il a faites. Et il y en a une qui s'appelle Gitan à l'ouvrage. Et on voit des gitans qui sont en train de tondre un mulet. Donc la personne qui a fait l'inventaire a marqué comme mot-clé vol pour cette opération. Alors quand on connaît un peu les populations romanies, on sait que le travail autour le soin autour des chevaux, les soins vétérinaires, c'est un métier qui est exercé depuis belle lurette. Donc en fait, juste cette personne a mis ses préjugés finalement dans les mots clés parce qu'ils sont manifestement pas en train de voler, mais juste de s'occuper d'un cheval, enfin d'un mulet en l'occurrence. Donc voilà, on a fait ce travail de relecture et on a aussi, puisque l'exposition Barvalo est co-créée avec, on est 19 commissaires en fait, d'origine romanie et non romanie, et donc on a aussi travaillé sur ce que c'est qu'un patrimoine romanie aujourd'hui en concertation, et donc on a acquis de l'art contemporain, des artistes romaniques comme Gaby, pas uniquement français mais de toute l'Europe. On a aussi acquis des objets qui sont en lien avec la mémoire de l'Holocauste, puisque l'Holocauste de Roumanie, on n'en parle pas beaucoup, et qu'il faut quand même témoigner de ce qui est arrivé, et aussi autour de la caravane, puisque ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que les voyageurs de notre groupe ont dit, bah, en fait, nous, on est très fiers de notre habitat, et on voudrait que, bah, se faire savoir que c'est une manière d'habiter, de vivre, et qu'on a aussi une esthétique de la caravane qu'on voudrait partager, et ça fait partie de notre patrimoine.
Voilà. Merci beaucoup, Julia Ferloni. Donc, c'est le 10 mai, c'est la prochaine exposition, grande exposition du Bucem. Merci beaucoup.
Portes ouvertes le 9 mai, venez.
Alors, 40 ans après la marche pour l'égalité ou contre le racisme, la marche des beurs, première manifestation antiraciste en France, comment voyez-vous, vous, Roquel Diallo, vous, Lilian Thuram, ce qu'ont fait la génération d'avant vous? Comment les combats antiracistes ont été menés? S'il fallait parler de cette génération, la génération « touche pas à mon pote » pour celles et ceux qui s'en souviennent. Vous êtes plutôt critique, si j'ai bien compris, Rokhaya.
Mais j'ai l'impression que ça va mieux à SOS Racisme là, depuis quelques années.
Ah bah alors explique-moi tout.
Donc déjà, je fais une distinction entre la marche pour l'égalité et SOS Racisme. Donc la marche pour l'égalité contre le racisme qui a été initiée notamment par Toumi Djaïdja, c'est un énorme mouvement social de 1983 qui malheureusement est très peu connu. Si vous faites un micro-trottoir aujourd'hui dans la rue, les gens ne savent pas qui est Toumi Djaïdja. Les gens ne sont pas capables de citer les marcheurs et ont même oublié l'existence de la marche, alors que 100 000 personnes sont arrivées à Paris le 3 décembre 1983. Donc déjà, c'est cette question de la mémoire. C'est-à-dire que quand on parle de la mémoire de l'antiracisme ou de figures iconiques de l'antiracisme français, enfin de l'antiracisme en France, on va citer Martin Luther King, on va citer Nelson Mandela, on va citer Angela Davis, mais dès qu'il s'agit de citer des Français et des Français contemporains comme les marcheurs, il n'y a plus personne, on ne les connaît pas.
Alors, c'est je
pas...
vais citer Harlem Désir pour aller dans le vif du sujet.
Harlem Désir, ce n'était pas un initiateur de la marche, en fait. C'était un militant d'un syndicat étudiant proche du Parti Socialiste. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la marche de 1983, qui a été initiée par des personnes qui avaient notamment été victimes de violences policières. Ensuite, il y a eu une marche en 1984 qui s'appelait Convergence 84, qui a été aussi initiée par des personnes des quartiers populaires. Et à l'arrivée de cette marche, SOS Racisme a distribué ses badges et a récupéré une marche qui venait du terrain. Mais SOS Racisme a été initiée par l'impulsion de François Mitterrand, qui a, d'une certaine manière, coupé les bases d'un mouvement qui venait du terrain. Et on a institutionnalisé un mouvement qui dénonçait le racisme systémique et institutionnel de la police, notamment, pour en faire une grande fête, en disant « touche pas à mon pote ». Déjà, quand on dit « touche pas à mon pote », qui parle? Est-ce que c'est le pote ou c'est quelqu'un qui veut le protéger en parlant à sa place? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y avait déjà un discours qui me semblait extrêmement paternaliste. Et je dis ça avec le recul. Moi aussi, quand j'étais à l'école primaire, j'avais mon petit badge SOS Racisme et on faisait des... Voilà, je trouvais ça super, les concerts à la Concorde. Mais à un moment donné, on dépolitise une lutte qui parle de violence policière pour faire des concerts en disant que les méchants, c'est le Front National et que nous, on est tous gentils et on va chanter
donc,
tous
on
ensemble.
Donc, on n'est pas dans la continuité d'SOS Racisme. C'est le
de cette époque, en tout cas. Mais de ce que je vois, de ce qu'ils font actuellement, je trouve qu'il y a vraiment un discours qui est différent. J'ai eu l'occasion de débattre avec la vice-présidence actuelle d'SOS Racisme. Je sens que c'est une génération qui apprend le racisme différemment et qui comprend son aspect institutionnel et politique, qui n'est pas dans un antiracisme moral. Le racisme, ce n'est pas une question de gentil et de méchant, c'est une question politique et historique. Et c'était ça le problème dans les années 80, c'est qu'on disait les racistes, c'est eux, les fachos, et nous, on est gentils parce qu'on est de gauche. Et ça, ça ne marche pas.
Allez, c'est le moment d'ouvrir le débat avec le public. Si vous avez des questions à poser à Rokhaya Diallo ou à Lilian Thuram, c'est le moment.
Merci. On m'entend là?
Oui, je crois, oui.
Je crois qu'en revenant à ce que vous venez de dire tout à l'heure, il y a l'éducation. Sachez, malheureusement, ma mère est raciste contre les Noirs. Donc, quand votre propre mère vous élève en vous disant « Oh là là, il est trop noir celui-là », non, non. Trop noir celui-ci, et que vous êtes petite et que vous grandissez avec ça. Alors, là, je commence à me poser sérieusement la question, en plus, si je ne me suis pas mariée avec un blanc à cause de ça. Donc, le pauvre. Mais en entendant.
Excusez-moi, arrêtez de rire, s'il vous plaît. Parce que peut-être qu'elle est en train de découvrir quelque chose et c'est traumatisant. Alors, je tiens à vous rassurer, vous vous êtes mariée avec votre mari parce que vous l'aimez.
Oui, Dieu merci. Mais.
On a frôlé la catastrophe.
Donc pour revenir, il y a aussi donc ce combat-là. Ce combat à travers nos parents et nos grands-parents qui ont cette image négative du noir. Qu'est-ce que vous dites? Par exemple, si ma mère serait là, qu'est-ce que vous lui direz?
Alors tout d'abord, votre mère est née en quelle année?
1937.
Ok. Alors, c'est tout à fait normal. C'est pour cela que je dis encore une fois, le racisme, c'est culturel. En fait, vous apprenez à devenir raciste. On ne l'est pas raciste, comme je dis, on ne l'est pas noir ou blanc, on le devient. C'est tout à fait normal qu'elle ait un rejet des personnes noires, parce qu'elle a été éduquée à penser qu'être noir était négatif. Et donc, en fait, elle fait partie de toute une génération qui veut blanchir la descendance. Donc, elle vous prépare effectivement à avoir des enfants qui ne seraient pas noirs. Pourquoi ? Parce qu'elle sait très bien que si vos enfants sont noirs, ils auront beaucoup plus de problèmes. Et moi, je peux comprendre ce que vous dites parce que je suis antillais. Ah, vous êtes antillais ? Ok. Vous savez ce que j'ai dit à Rokhaya en vous entendant parler ? Elle doit être antillaise. Non, mais rigolez pas, parce qu'en fait, identitairement, c'est très compliqué d'être antillais. On vous a éduqué à penser que vous êtes français. On vous a éduqué à vous penser être blanc.
Alors, je vous coupe. Effectivement, je suis antillaise du côté de papa. Ouais. Mais j'ai grandi avec ma maman qui est des îles du Cap-Vert. Et en sachant que les îles du Cap-Vert, n'oubliez pas, ça a été grillé, etc. Donc, elle a connu cette histoire, justement, d'esclavage, etc.
Donc, mais comment elle a été éduquée à l'école, par exemple ?
Le problème, c'est qu'aux îles du Cap-Vert, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait à l'école.
Mais est-ce qu'elle entendait que, par exemple, les ancêtres étaient des Gaulois ?
Non, je ne pense pas.
Ah, ma mère a entendu ça.
Eh non, parce que les îles du Cap-Vert n'apparaissaient pas, moi, quand j'allais à l'école, n'apparaissaient même pas encore sur la carte Atlas. C'est arrivé beaucoup plus tard. C'est réel, ce que je vous dis. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis, quand vous avez des parents, parce qu'on pourrait dire qu'elle est née aux Antilles ou alors en France, et qu'elle ait cette réaction-là, parce qu'elle a eu cette éducation-là. Mais que là, voilà, et qu'elle est des îles du Cap-Vert, quand même.
Mais vous savez, encore une fois... lorsqu'on parle du racisme lié à la couleur de la peau, en fait, c'est une histoire monde. Il faut vraiment prendre conscience que le racisme, ça n'a rien à voir avec si tu es français, italien. C'est une histoire monde. C'est-à-dire, on a construit l'idée dans le monde qu'en fait, les blancs étaient des êtres humains et les non-blancs des sous-humains. Et donc, ça veut dire que votre mère était éduquée à travers ça. Elle a été éduquée à travers, en fait, il faut faire comme les Blancs. D'ailleurs, ce qui est très intéressant avec cette nouvelle génération, des personnes non blanches, en fait, ils n'ont rien à prouver aux Blancs. Les générations d'avant, on va leur prouver qu'aussi on peut. C'était ça le danger. Et donc, écoutez, en tout cas, moi je sais que votre mari vous aime et que vous l'aimez. C'est pas parce que... Voilà.
Est-ce qu'on terminerait pas là-dessus ? D'autant plus que Rokhaya et Lilian ont accepté de signer quelques livres. Donc, ouais, d'accord. Donc, merci. Merci à vous d'être venus pour cette dernière. Merci, cher public. Merci d'avoir assisté à ce procès. Merci beaucoup.
Merci. Merci, bonne soirée.
Cette séance a été enregistrée le 13 mars 2023. Avec la participation de Rokhaya Diallo, Lilian Thuram, Julia Ferroni et de Toufik Hakem à la modération.
C'était le podcast Procès du siècle, féminisme, genre et minorité. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM en collaboration avec Grégoire Ingold.
À la modération, Judith Duportail, Toufik Hakem, Talma Desta,
Paloma Moritz, Valentine Auberti et Victoire Thuayon.
En partenariat avec Libération, Blast, Le Bonbon et Mademoiselle.
Réalisation Copie Carbone.
Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction.
Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.